Jean-François Legrain, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au Centre national de la recherche scientifique en France, spécialiste de la Palestine. Alors, le Premier ministre palestinien Salam Fayyad était mercredi à Bruxelles pour présenter aux pays donateurs les bases d'un plan d'investissement à hauteur de 5 milliards de dollars pour les trois prochaines années, nécessaire selon lui à la création d'un État palestinien indépendant. L'ONU a également jugé l'autorité palestinienne apte à diriger un État, mais quel État palestinien ?
En effet, la grande question. La déclaration du Premier ministre Fayyad est dans le prolongement, en fait, d'un plan qu'il a lancé il y a bientôt 2 ans maintenant, au mois d'août 2009, qui se basait sur l'idée qu'il fallait construire dès aujourd'hui, c'est-à-dire il y a 2 ans, l'État palestinien, et que cette construction, en fait, ferait avancer la question de la fin de l'occupation, avec pour échéance, donc 2 ans plus tard, c'est-à-dire le mois d'août de cette année, avec la proclamation de cet État. Et c'est ce vers quoi nous nous dirigeons aujourd'hui. Soit les Palestiniens font une déclaration unilatérale, soit ils demandent à l'Assemblée générale des Nations unies de reconnaître et de proclamer cet État.
Alors justement, les dirigeants palestiniens semblent aller dans le sens de demander à l'Assemblée générale de l'ONU de reconnaître cet État palestinien en Cisjordanie et aussi dans la bande de Gaza, qui est contrôlée, il faut le rappeler, depuis juin 2007 par le Hamas. Israël, pour sa part, juge irréaliste cette initiative. Elle insiste pour que soit avant tout signé un traité de paix qui prévoit la création d'un État palestinien. Quel regard vous portez justement sur la position israélienne ?
Nous sommes face à la contradiction de l'ensemble des politiques, qu'il s'agisse des politiques israéliennes, palestiniennes ou internationales. Car aujourd'hui, la question de l'État, en fait, est depuis maintenant plus de 20 ans, c'est-à-dire depuis le lancement du processus dit d'Oslo à la suite de la tenue de la conférence de Madrid en 1991, a vu cette question de l'État déconnectée de la question de l'autodétermination des Palestiniens. Et l'État aujourd'hui n'est plus lié à cette question de l'autodétermination et n'est plus lié à la souveraineté, puisque le territoire sur lequel cet État serait censé s'établir, bien ce territoire échappe à toute souveraineté palestinienne, il est entièrement morcelé, il est éclaté politiquement et la colonisation israélienne continue à s'y poursuivre. Donc ce à quoi on assiste en fait depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est à la renonciation de la politique internationale, de la légalité internationale. Et cette légalité internationale, en effet, elle avait reconnu le droit des droits nationaux des peuples, du peuple palestinien, son droit à l'autodétermination et donc à la création de l'État, de même qu'elle reconnaissait le droit des réfugiés, donc de 1948 et à leurs descendants, eh bien, soit à retourner chez eux, soit à recevoir compensation. Et également, elle stipulait que toute colonisation des territoires occupés en 1967 était illégale. Or, cette légalité, elle a été abandonnée puisqu'elle est devenue, en fait, depuis 20 ans, l'objet de la négociation. Et on a encore vu le mois dernier, lors d'un débat au Conseil de sécurité de l'ONU, eh bien, les États-Unis ont mis leur veto à une résolution qui simplement rappelait cette illégalité de la colonisation. Donc aujourd'hui, l'ONU semble envisager la proclamation d'un État, alors même que la souveraineté n'est pas assurée, et que la colonisation israélienne n'est même plus condamnée.
Alors justement, si cet État palestinien pourra être qualifié d'unilatéral dans sa proclamation, on va le dire formelle, est-ce qu'on peut dire que, vu les plans, vu les déclarations, cette proclamation aura été avant tout concertée ?
On peut imaginer en effet qu'elle aurait été ou qu'elle a été concertée. En tout cas, lorsque le Premier ministre de Ramallah, Salam Fayyad, a lancé son plan au mois d'août il y a 2 ans, tout laissait à penser qu'il y avait eu concertation avec les États-Unis et que l'idée, en effet, était partagée avec le président Obama. En revanche, il n'y a pas eu concertation, autant qu'on puisse le savoir, avec l'État d'Israël. Ce que l'on peut remarquer aussi, c'est que cette idée de l'État de Palestine défendue par Fayyad avec, donc, semble-t-il, le soutien des États-Unis, se fait également accompagner avec l'idée d'un État à frontières provisoires, même si cette idée est refusée côté palestinien. Mais on la trouve de façon récurrente dans des déclarations internationales, qu'il s'agisse de la feuille de route de 2003 et dans certaines déclarations du quartet et certaines déclarations donc d'État de l'Union européenne. On voit mal, en effet, aujourd'hui, si un tel État était proclamé, comment il pourrait être proclamé dans des frontières, puisque, comme je le disais tout à l'heure, le territoire sur lequel cet État serait censé se déployer, eh bien, est éclaté, et sur ce territoire se trouve l'ensemble des colonies israéliennes construites depuis 1967.
Je voudrais vous demander quelles menaces pèseraient justement sur cette solution dite de deux États, la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël, et puis quid de l'autorité palestinienne puisque les institutions ne sont pas renouvelées par voie électorale du fait même des divisions interpalestiniennes.
Alors, si un tel État, en effet, était proclamé au mois d'août ou de septembre, l'autorité palestinienne de facto disparaîtrait, en tout cas pour les Palestiniens. Puisque cette autorité, il faut le rappeler, n'était qu'intérimaire, elle a été proclamée en 1994 et elle était censée s'éteindre 5 ans plus tard, en 1999. Formellement, elle n'a été prolongée que pendant 1 an et depuis cette date, en fait, on est dans un flou juridique puisqu'il n'y a pas eu à proprement parler d'une définition de son statut. Et cette autorité, elle était conçue comme étant donc intérimaire dans l'attente d'une solution définitive, une solution définitive qui pour les Palestiniens était la constitution d'un État sur les territoires occupés en 1967. Donc en effet, si l'État était proclamé au mois d'août ou septembre, eh bien, par voie de conséquence immédiate, l'autorité palestinienne d'autonomie intérimaire disparaîtrait. Mais la question en effet qui se pose, c'est quel serait le statut de la bande de Gaza, puisque, en effet, la bande de Gaza, depuis l'été 2007, eh bien, est contrôlée par l'autorité sous le contrôle de Hamas, quand l'autorité en Cisjordanie est contrôlée par Salam Fayyad avec le soutien de Fatah. Or, il faut se souvenir que pour Hamas, la question de l'État n'est pas primordiale. Aux yeux du mouvement Hamas, c'est la fin de l'occupation qui compte et non la création de l'État qui est strictement conditionnée à la concrétisation préalable de la libération. Or, tel n'est pas le cas aujourd'hui, puisque si en effet l'État a été proclamé en septembre, eh bien la libération, elle, n'a toujours pas eu lieu, puisque les colonies continuent à se développer et que l'armée israélienne pénètre quotidiennement dans ce qui serait censé être le territoire de cet État.
Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que dans le but de cette concrétisation, est-ce que c'est l'OLP qui aurait l'avantage de garantir la continuité institutionnelle avec l'autorité palestinienne en tournant la page Hamas ?
Alors, l'OLP, au regard de la communauté internationale, est de toute façon le seul interlocuteur doté de capacités diplomatiques, alors que, selon cette même légalité internationale, l'autorité palestinienne d'autonomie n'a aucune capacité diplomatique, puisqu'elle n'était censée que gérer de façon civile les droits civils des populations autonomes. Donc, de toute façon, s'il y a une proclamation d'État et un signataire, ce ne pourrait être que l'OLP. Mais il faut se souvenir qu'un certain nombre de responsables palestiniens ont la double casquette, c'est-à-dire la casquette OLP d'une part et autorité d'autonomie d'autre part. C'est le cas de Mahmoud Abbas, président à la fois du comité exécutif de l'OLP et président de l'autorité palestinienne, même si son mandat est arrivé à échéance en janvier d'il y a 2 ans. Donc on peut imaginer en effet que ce sera l'OLP qui sera derrière la demande de la proclamation de l'État, puisque c'est aussi l'OLP qui détient le statut d'observateur aux Nations Unies. Mais le problème, c'est que l'OLP, au fil des ans, s'est sclérosé. Ses dirigeants sont maintenant des gens en général âgés, Mahmoud Abbas donc a plus de 75 ans, comme des membres de ces institutions de l'OLP, et que bien évidemment Hamas et les autres mouvements islamistes ne font pas partie de l'OLP. Donc la représentativité de cette institution est aujourd'hui questionnée.
Il y a ce printemps arabe. Quelles sont justement les réactions palestiniennes à ces bouleversements de ce printemps arabe? Et puis, la réconciliation interpalestinienne est-elle possible? Quel rôle peuvent jouer les opinions publiques palestiniennes?
Il y a eu un soutien populaire accordé dès le début aux événements tunisiens ou égyptiens, et qui ont placé d'ailleurs les deux autorités, tant celle de Gaza que Ramallah, dans un embarras certain. À Ramallah, avec Mahmoud Abbas et le Fatah, qui se trouvaient être très gênés parce que, avec la chute de Hosni Moubarak, c'était la disparition de son premier allié arabe, et que le mouvement Fatah lui-même, de trouver une communauté, je dirais, de menaces avec le régime égyptien, puisqu'il y avait tous les soupçons de corruption, que le Fatah était aussi qualifié d'un certain autoritarisme, et que son alignement sur les États-Unis était partagé avec l'Égypte. À Gaza, il y avait un très grand embarras devant les incertitudes nées de ce qui se passait au Caire, l'Égypte étant le seul point de sortie de la bande de Gaza vers l'international. Et donc, il était impératif pour le mouvement Hamas de conserver des liens avec le régime égyptien, quel qu'il soit. Donc, toute incertitude, eh bien, était une cause de souci pour l'autorité Hamas de Gaza, même si cette autorité, évidemment, ne pouvait que se réjouir de voir la réintroduction dans le jeu politique égyptien de l'association des frères musulmans. Il y a eu ensuite un certain nombre d'initiatives qui ont été lancées sur Facebook et Twitter, comme ça avait été le cas donc en Tunisie ou en Égypte, mais les initiatives en fait n'ont eu qu'un impact très limité, je crois tout simplement parce qu'elles ne venaient pas à proprement parler de la base, mais de certains responsables, tout particulièrement de la mouvance Fatah, qui avaient cru profiter justement de ce qui s'était passé en Tunisie pour utiliser Facebook contre Hamas. Et les seules initiatives réellement autonomes, indépendantes, qui pouvaient rappeler ce qui s'était passé dans les mouvements de jeunesse égyptiens ou tunisiens, s'est retrouvé d'une certaine façon l'otage de cette manipulation de groupes politiques traditionnels. Ce qui fait que les initiatives Facebook n'ont pas constitué une étincelle pour une mobilisation populaire qui aurait pu en effet déboucher sur une remise en question de la coupure entre Gaza et la Cisjordanie, entre Fatah et Hamas, mais tel n'a pas été le cas.
Jean-François Legrain, je rappelle que vous êtes chercheur au Centre national de la recherche scientifique en France. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Chaîne Inter. Merci également pour cet éclairage.
Je vous en prie.
Au revoir.
Au revoir.